Gustave Flaubert, des pierres de Carnac et de l'archéologie celtique. Il faisait chaud, le bon soleil de mai nous mordait le cou et nos chemises de soie nous collaient dans le dos. Aussi notre premier soin en arrivant à Carnac, chez la veuve Gildas, notre hôtesse, fut-il de nous rafraîchir avec une bouteille de bière blanche qui fut suivie d'une autre, lesquelles nous gonflèrent le ventre, chose importante à dire. Le gîte était propre et de nette apparence. On nous mit dans une grande chambre dont deux lits à baldaquin, recouverts d'indiennes, et une table longue pareille à celle d'un réfectoire de collège, formaient l'ameublement principal. Un raffinement de coquetterie avait laissé le pied des lits non bordé pour qu'on pût voir sur le bout de la couverture une large raie rouge qui en faisait la bordure, et une précaution de propreté avait cloué sur la table une belle toile cirée, verte comme du bronze. Sur les murs, dans des cadres de bois noir, il y a l'histoire de Joseph, y compris la scène avec Madame Putifar, le portrait de Saint Stanislas, celui de Saint Louis de Gonzague, qui est bien le saint le plus bête du monde, et des certificats de première communion avec vignettes représentant l'intérieur de l'église et les communiants et assistants dans leurs costumes respectifs. Des tasses à café, décorées de ces mots écrits en lettres d'or, « Liberté, ordre public », sont rangées le long de la cheminée dans l'espace que leur laissent deux carafes. Ah, quelle carafe! Quel dommage si on en cassait une! Où retrouver la paire? Elle n'était pourtant pas de verre de Venise, ni ciselée, ni taillée, mais de verre, tout bonnement, comme de simples carafes. Elles n'ont pas même de bouchon, mais dans la première, autour d'un Napoléon, grand d'un demi-pouce et tout raide étendu sur son tombeau piqué de perles et hérissé de plumes, six militaires de grades différents se tiennent majestueusement, portant chacun à la main des palmes oblongues comme des cornichons. Et dans la seconde s'accomplit le saint sacrifice de la messe. On voit le prêtre, le calice, l'autel, quatre colonnes de perles aux quatre coins du sanctuaire, plus deux enfants de chœur surchargés d'énormes pains de sucre rouge qui sont censés être les calottes de ces jeunes drôles. Ce lieu était si honnête, si bénin, exhalait un tel parfum de candeur, une modestie si bête mais si douce. La grande armoire à ferrement de cuivre brillait si propre sous les cuvettes de Russie qui en ornaient la corniche, et les paniers d'osier accrochés au sommier avaient l'air, comme tout le reste, si tranquille et si bonhomme que nous décrétâmes de suite que Carnac nous plaisait et que nous y resterions quelque temps. Nos fenêtres donnaient sur la place de l'église, où des enfants jouaient aux billes à l'ombre d'un tilleul. C'était là l'unique bruit du village. Il n'y passe pas de voiture, il n'y a pas de boutique, et tout le pain qu'on y mange se cuit là, en bas, dans la cuisine, dont la moitié est consacrée à une boulangerie. Quoique ne parlant pas le français et décorant leurs intérieurs de cette façon, on vit donc là tout de même, on y dort, on y boit, on y fait l'amour et on y meurt, tout comme chez nous. Ce sont aussi des humains que ces êtres-là, mais comme ils s'occupent peu du salon, et même de l'exposition de l'industrie, comme ils s'embarrassent médiocrement de l'opéra qui va rouvrir et du rocher de Cancale qui est fermé, comme ils ne causent pas de ce dont on cause, le jockey club, les courses de Chantilly, les dettes de Dumas, les cuirs de Monsieur de Rambuteau, le nez d'Hyacinthe, etc. C'est une chose dont on ne peut se défendre que cet étonnement imbécile qui vous prend à considérer les gens vivants où nous ne vivons point et passant leur temps à d'autres affaires que les nôtres. Vous rappelez-vous souvent, en traversant un village le matin, quand le jour se levait, avoir aperçu quelques bourgeois ouvrant ses auvents ou balayant le devant de sa porte et qui s'arrêtait bouche béante à vous regarder passer? À peine s'il a pu distinguer votre visage, ni vous le sien, et dans cet éclair pourtant, tous les deux au même instant, vous vous êtes ébahis dans un immense étonnement. Il se disait en vous regardant fuir, « Où va-t-il donc celui-là et pourquoi voyage-t-il » Et vous qui couriez, « Qu'est-ce qu'il fait là » disiez-vous, « Est-ce qu'il y reste toujours ?» Il faut assez de réflexion et de force d'esprit pour saisir nettement que tout le monde n'habite pas la même ville, ne se chausse pas chez votre bottier, ne s'habille pas chez votre tailleur, dîne à d'autres heures que vous et n'est pas vos idées. Mais je ne comprends point encore comment on existe lorsqu'on est notaire, comment il se peut faire que l'on soit employé dans un bureau, comment on se lève avant 10 heures et on se couche avant minuit, et je me demande sérieusement s'il est possible qu'il y ait des êtres sur la terre s'occupant à autre chose qu'à aligner des phrases et à chercher des adjectifs. Il serait trop absurde, étant à Carnac, de ne pas aller voir les fameuses pierres de Carnac. Aussi nous reprîmes nos bâtons et nous nous dirigeâmes vers le lieu où elles gisent. Nous allions dans l'herbe, tête baissée et devisant sur je ne sais quoi, quand un frôlement nous a fait lever les yeux et nous avons vu une femme s'avancer par le sentier qui descendait, nu-pieds, nu-jambes, sans fichu, son grand bonnet remuant, sa jupe claquant au vent, une main sur la hanche et de l'autre retenant une énorme gerbe de foin qu'elle portait sur la tête. Elle marchait avec des torsions de taille, hardie et belle, dans son corsage rouge. Elle a passé près de nous. Son souffle était large et fort et la sueur coulait en filets sur la peau brune de ses bras ronds. Bientôt, enfin, nous aperçûmes dans la campagne des rangées de pierres noires, alignées à intervalles égaux, sur 11 fils parallèles qui vont diminuant de grandeur à mesure qu'elles s'éloignent de la mer. Les plus hautes ont 20 pieds environ et les plus petites ne sont que de simples blocs couchés sur le sol. Beaucoup d'entre elles ont la pointe en bas, de sorte que leur base est plus mince que leur sommet. Cambry dit qu'il y en avait 4 000, et Fréminville en a compté 1 200. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y en a beaucoup. Voilà donc ce fameux chant de Carnac, qui a fait écrire plus de sottises qu'il n'a de cailloux. Il est vrai qu'on ne rencontre pas tous les jours des promenades aussi rocailleuses. Mais malgré notre penchant naturel à tout admirer, nous ne vîmes qu'une facétie robuste, laissée là par un âge inconnu, pour exerciter l'esprit des antiquaires et stupéfier les voyageurs. On ouvre devant des yeux naïfs, et tout en trouvant que c'est peu commun, on s'avoue cependant que ce n'est pas beau. Nous comprîmes donc parfaitement l'ironie de ces granites qui, depuis les druides, rient dans leur barbe de lichen vert à voir tous les imbéciles qui viennent les visiter. Il y a des gens qui ont passé leur vie à chercher à quoi elles servaient, et n'admirez-vous pas d'ailleurs cette éternelle préoccupation du bipède sans plumes de vouloir trouver à chaque chose une utilité quelconque ? Non content de distiller l'océan pour saler son pot-au-feu et de chasser les éléphants pour avoir des ronds de serviette, son égoïsme s'arrête encore lorsque s'exhume devant lui un débris quelconque dont il ne peut deviner l'usage. À quoi donc cela était-il bon ? Sont-ce des tombeaux ? Était-ce un temple ? Saint Corneille, un jour, poursuivi par des soldats qui le voulaient tuer, était à bout d'haleine et allait tomber dans la mer, quand il lui vint l'idée, pour les empêcher de l'attraper, de les changer tous en autant de pierres. Aussitôt, les soldats furent pétrifiés, ce qui sauva le saint. Mais cette explication n'était bonne tout au plus que pour les niais, les petits-enfants et pour les poètes. On en chercha d'autres. Au XVIe siècle, le sieur Olaus Magnus, archevêque d'Uppsale, et qui, exilé à Rome, s'amusa à écrire sur les antiquités de son pays un livre estimé partout, si ce n'est dans ce même pays, la Suède, où personne ne le traduisit, avait découvert de lui-même que lorsque les pierres sont plantées sur une seule et longue ligne droite, cela veut dire qu'il y a dessous des guerriers morts en se battant en duel, que celles qui sont disposées en carré sont consacrées à ceux qui périrent dans une mêlée, que celles qui sont rangées circulairement sont des sépultures de famille, et enfin que celles qui sont disposées en coin ou sur un ordre angulaire sont les tombeaux des cavaliers ou même des gens de pied, surtout ceux dont le parti avait triomphé. Voilà qui est clair, explicite, satisfaisant. mais Olaus Magnus aurait bien dû nous dire quelle était la sépulture que l'on donnait à deux cousins germains ayant fait coup double dans un duel à cheval. Le duel de lui-même voulait que les pierres fussent droites, la sépulture de famille exigeait qu'elles fussent circulaires, mais comme c'était des cavaliers, il fallait bien les disposer en coin. Il est vrai qu'on n'y eût pas été absolument contraint, car on enterrait ainsi que ceux surtout dont le parti avait triomphé. Ô brave Olaus Magnus, vous aimiez donc bien fort le Monte Pulciano, et combien vous a-t-il fallu de rasades pour nous apprendre toutes ces belles choses ? Un certain docteur Borlase, qui avait observé en Cornouailles des pierres pareilles, a dit aussi son petit mot là-dessus. Selon lui, on a enterré là des soldats à l'endroit même où ils avaient combattu. Où diable a-t-il vu qu'on les charriait ordinairement au cimetière ? Leurs tombeaux, ajoute-t-il, sont rangés en ligne droite comme le front d'une armée dans les plaines qui ont été le théâtre de quelques grandes actions. Cette comparaison est d'une poésie si grandiose qu'elle m'enlève, et je suis un peu de l'avis du docteur Borlase. On a été ensuite chercher les Grecs, les Égyptiens et les Cochins chinois. Il y a un Karnak en Égypte, s'est-on dit, il y en a un en Basse-Bretagne. Nous n'entendons ni le copte, ni le breton. Or, il est probable que le Karnak d'ici descend du Karnak de là-bas, cela est sûr, car là-bas ce sont des sphinx alignés, et ici ce sont des blocs, des deux côtés de la pierre. D'où il résulte que les Égyptiens, peuple qui ne voyageait pas, sont venus sur ces côtes, dont ils ignoraient l'existence, y auront fondé une colonie, car ils n'en fondaient nulle part, et qu'ils y auront laissé ces statues brutes, eux qui en faisaient de si belles, témoignages positifs de leur passage, dont personne ne parle. Ceux qui aiment la mythologie ont vu là les colonnes d'Hercule. Ceux qui aiment l'histoire naturelle y ont vu une représentation du serpent Python, parce qu'au rapport de Pausanias, une réunion de pierres semblables placées sur la route de Thèbes à Ilissonte s'appelait la tête du serpent, et d'autant plus que les alignements de Karnak offrent des sinuosités comme un serpent. Ceux qui aiment la cosmographie y ont vu un zodiaque, comme M. de Cambry, entre autres, qui a reconnu dans ses 11 rangées de pierres les 12 signes du zodiaque, car il faut dire, ajoute-t-il, que les anciens Gaulois n'avaient que 11 signes au zodiaque. Un monsieur qui était membre de l'Institut a estimé que c'était le cimetière des Vénètes, qui habitaient Vannes, à 6 lieues de là, et lesquels fondèrent Venise, comme chacun sait. Un autre a pensé que ces bons Vénètes, vaincus par César, élevèrent ces pierres à la suite de leur défaite, uniquement par esprit d'humilité et pour honorer César. Mais on en avait assez des cimetières, du serpent Python et du zodiaque. On se mit en quête d'autre chose et en trouva un temple druidique. Le peu de documents authentiques que l'on ait sur cette époque, épars dans Pline et dans Dion Cassius, s'accordent à dire que les druides choisissaient pour leurs cérémonies religieuses des lieux sombres, le fond des forêts et leur vaste silence. Aussi, comme Karnak est au bord de la mer, dans une campagne stérile où il n'a jamais poussé autre chose que les conjectures de ces messieurs, le premier grenadier de France, qui ne me paraît pas avoir été le premier homme d'esprit, suivi de Peloutier et de M. Mahé, chanoine de la cathédrale de Vannes, a décidé que c'était un temple des druides, dans lequel on devait aussi convoquer les assemblées politiques. Tout cependant n'était pas encore dit, et ce fait acquis à la science n'eût pas été complet si l'on eût démontré à quoi servaient dans l'alignement les espaces vides où il ne se trouve pas de pierre. « Cherchons-en la raison, ce que personne ne s'est encore avisé de faire », s'est dit M. Mahé. Et s'appuyant sur cette phrase de Pomponius Mela, « Les druides enseignent beaucoup de choses à la noblesse qu'ils instruisent secrètement en des cavernes et en des forêts écartées. » Il établit en conséquence que les druides non seulement desservaient les sanctuaires, mais y faisaient leur demeure et y tenaient des collèges. Puis donc que le monument de Karnak est un sanctuaire, comme l'étaient les forêts gauloises, ô puissance de l'induction, où pousses-tu le père Mahé, chanoine de Vannes et correspondant de l'Académie d'agriculture de Poitiers. Il y a lieu de croire que les intervalles vides qui coupent les lignes des pierres renfermaient des fils de maisons où les druides habitaient avec leurs familles et leurs nombreux élèves, et où les principaux de la nation qui se rendaient au sanctuaire au jour de grande solennité trouvaient des logements préparés. Bons druides, excellents ecclésiastiques, comme on les a calomniés, eux qui habitaient là si honnêtement, avec leurs familles et leurs nombreux élèves, et qui même poussaient l'amabilité jusqu'à préparer des logements pour les principaux de la nation. Mais un homme est venu enfin, qui, pénétré du génie de l'Antiquité et dédaignant les routes battues, a osé dire la vérité à la face de son siècle. Il a su reconnaître en ce lieu les restes d'un camp romain, et précisément d'un camp de César, qui n'avait fait élever ses pierres que pour servir d'appui aux tentes de ses soldats et pour les empêcher d'être emportés par le vent. Quelle bourrasque qu'il devait faire autrefois sur les côtes de l'Armorique! L'homme qui a restitué à César la gloire de cette précaution sublime s'appelait Monsieur de la Sauvagère et était de son métier officier du génie. L'amas de toutes ces gentillesses constitue ce qui s'appelle l'archéologie celtique, science au charme de laquelle nous ne pouvons résister d'initier le lecteur. Une pierre posée sur d'autres s'appelle un dolmen, qu'elle soit horizontale ou verticale. Un rassemblement de pierres debout et recouvertes sur leur sommet par des dalles consécutives, formant ainsi une série de dolmens, est une grotte aux fées, roche aux fées, table des fées, table du diable ou palais des géants, car ainsi que ces maîtres de maison qui vous servent un vin identique sous des étiquettes différentes, les celtomanes, qui n'avaient presque rien à nous offrir, ont décoré de noms divers des choses pareilles. Quand ces pierres sont rangées en ellipse, sans aucun chapeau sur les oreilles, il faut dire « voilà un cromlech ». Lorsqu'on aperçoit une pierre étalée horizontalement sur deux autres verticales, on a affaire à un lycaven ou trilite, mais je préfère lycaven comme plus scientifique, plus local, plus essentiellement celtique. Quelquefois, deux énormes blocs sont supportés l'un sur l'autre, ne semblant se toucher que par un seul point de contact, et on lit dans les livres qu'elles sont équilibrées de telle façon que le vent même suffit quelquefois pour imprimer au bloc supérieur une oscillation marquée. Insertion que je ne nie pas, tout en me méfiant quelque peu du vent celtique, quoique ces pierres prétendues branlantes n'aient jamais remué sous tous les coups de pied que nous avons eu la candeur de leur donner. Elles s'appellent alors pierres roulantes ou roulées. Pierre retournée ou transportée, pierre qui danse ou pierre dansante, pierre qui vire ou pierre virante. Il reste à vous faire connaître ce que c'est qu'une fichade, une pierre fiche, une pierre fixée, ce qu'on entend par haute borne, pierre latte ou pierre lait, en quoi une pierre fonte diffère d'une pierre fiette et quel rapport existe entre une chair au diable et une pierre droite. Après quoi, vous en saurez à vous seul aussi long que jamais n'en surent ensemble Peloutier, De Ric, La Tour d'Auvergne, Pénouette et autres, doublés de Mahé et renforcés de Fréminville. Apprenez donc que tout cela signifie un pelvan, autrement dit un menhir, et n'exprime autre chose qu'une borne, plus ou moins grande, placée toute seule au beau milieu des champs. Les colonnes creuses du boulevard vues du côté du trottoir sont donc autant de pelvanes placées là par la sollicitude paternelle de la police pour le soulagement des Parisiens, qui ne se doutent guère les misérables en lisant l'affiche des capsules mottes qu'ils soient momentanément contenus dans un petit menhir. J'allais oublier les tumulus. Ceux qui sont composés à la fois de cailloux et de terre sont appelés boroughs, en hostile, et les simples monceaux de cailloux, galgal. Les fouilles que l'on a faites sous ces diverses espèces de pierres n'ont amené à aucune conclusion sérieuse. On a prétendu que les dolmens et les trilites étaient des autels, quand ils n'étaient pas des tombeaux, que les roches aux fées étaient des lieux de réunion ou bien des sépultures, et que les conseils de fabrique d'alors s'assemblaient dans les cromlechs. Monsieur de Cambry a entrevu dans les pierres branlantes les emblèmes du monde suspendu dans l'espace, mais on s'est assuré depuis que ce n'étaient que des pierres probatoires dont on faisait usage pour rechercher la culpabilité des accusés et qu'ils étaient convaincus du crime imputé quand ils ne pouvaient remuer le rocher mobile. Les galgales et les boroses ont été sans doute des tombeaux, et quant aux menhirs, on a poussé la bonne volonté jusqu'à trouver qu'ils ressemblaient à des phallus. D'où l'on a induit le règne d'un culte ithyphallique dans toute la Basse-Bretagne. Ô chaste indécence de la science, tu ne respectes rien, pas même les pelvanes. Pour en revenir aux pierres de Carnac, ou plutôt pour les quitter, je ne demanderais pas mieux comme un autre que de les avoir contemplées lorsqu'elles étaient moins noires et que les lichens n'y avaient pas encore poussé. La nuit, quand la lune roulait dans les nuages et que la mer mugissait sur le sable, les druidesses errantes parmi ces pierres, si elles y erraient toutefois, devaient être belles, il est vrai, avec leurs faucilles d'or, leurs couronnes de verveine et leurs traînantes robes blanches rougies du sang des hommes. Longues comme des ombres, elles marchaient sans toucher terre, les cheveux épars, pâles sous la pâleur de la lune. D'autres que nous déjà se sont dit que ces grands blocs immobiles peut-être les avaient vus jadis. D'autres comme nous viendront aussi là sans comprendre, et les mahés des siècles à naître s'y briseront le nez et y perdront leur peine. Une rêverie peut être grande et engendrer au moins des mélancolies fécondes quand, partant d'un point fixe, l'imagination, sans le quitter, voltige dans son cercle lumineux. Mais lorsque, se cramponnant à un objet dénué de plastique et privé d'histoire, elle essaie d'en tirer une science et de rétablir toute une société perdue, elle demeure elle-même plus stérile et plus pauvre que cette matière inerte à laquelle la vanité des bavards prétend trouver une forme et donner des chroniques. Après avoir exposé les opinions de tous les savants cités plus haut, que si l'on me demande à mon tour quelle est ma conjecture sur les pierres de Carnac, car tout le monde a la sienne, j'émettrai une opinion irréfutable, irréfragable, irrésistible. Une opinion qui ferait reculer les tentes de Monsieur de la Sauvagère et pâlir l'Égyptien Pénoète. Une opinion qui casserait le zodiaque de Cambrie et mettrait le serpent Python en tronçon. Et cette opinion, la voici. Les pierres de Carnac sont de grosses pierres.